cours de philosophie première, La personne humaine, par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er juillet 1999 à Saint-Jean-d'Or.
Tout ce que nous avons dit hier montre d'une manière très nette que sans le regard le plus direct possible sur notre finalité, sur celui qui est la vérité première, celui qui est Dieu, Créateur et Père. Sans ce regard, cette relation directe avec lui, notre personnalité, notre personne humaine n'est pas achevée. Elle n'est pas parfaitement développée. Seule la causalité finale, et c'est pour bien montrer ce point de vue de la causalité finale, seule la causalité finale va permettre à l'homme, à la nature humaine, d'acquérir sa stabilité, son développement plénier de personne humaine. Tant qu'il n'y a pas cette découverte. Alors on voit, en philosophie c'est difficile de dire le jeu démoniaque, mais on peut appeler les forces du mal, si vous voulez. Jusqu'où peut-on découvrir la présence du démon au point de vue philosophique? Ça, c'est une question, nota bene, hein, qu'on doit se poser aujourd'hui. Et comme l'homme peut naturellement découvrir l'existence de Dieu, est-ce que l'homme ne peut pas découvrir naturellement la présence d'un être spirituel, anti-Dieu? Vous voyez, étant donné la force du mal, étant donné le caractère spirituel de la tentation aujourd'hui. Et faire que l'intelligence humaine est capable d'affirmer que seul ce qu'elle pense est intéressant, que la seule réalité qui peut me satisfaire, c'est moi. Ce repliement de la nature spirituelle sur elle-même, qui se déclare par le fait même la réalité première, ou identique à la réalité première, intentionnellement et réellement, puisque ça ne peut se faire qu'au niveau de l'ontologisme, on est premier. Est-ce que cela ne montre pas avec évidence qu'il y a une personne, une intelligence anti-divine pour affirmer cela? Et comme l'amitié me permet d'affirmer l'existence de Dieu, est-ce que le témoignage de certaines philosophies et de certains philosophes qui affirment cela, est-ce que ce n'est pas un témoignage qui montre qu'il existe dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde présent, une force démoniaque anti-Dieu? C'est pas seulement, voyez, un mal corruptible de la cause matérielle, c'est la cause formelle qui s'oppose à la finalité. Et le point de vue de la cause matérielle est complètement dépassé. C'est vraiment du côté de l'objet, donc de la cause formelle, de la spécification de l'objet, qui s'affirme comme tout, comme l'absolu. Est-ce que cela n'exige pas du philosophe qui cherche la vérité une force qui dépasse l'homme? Parce que j'affirme par là que rien n'est au-dessus de moi. Donc une force qui dépasse l'homme et qui s'impose à l'homme comme étant ce qu'il y a de plus grand en lui. Ce qu'il y a de plus grand en lui, c'est l'alliance avec ce qui est contre Dieu lui-même. Parce que cette parole qu'on voyait hier à propos de la tour de Babel, si vous la prenez au plan spirituel, vous avez ça. Les hommes deviendront, si on les laisse, ils viendront à s'affirmer comme Dieu. Ils seront rivales de Dieu. Affirmer qu'en se connaissant, on connaît la réalité la plus profonde et la plus grande, que c'est nous, est-ce que ce n'est pas la caricature même du noesis, noeseos, la philosophie grecque, dans son sommet, a affirmé que Dieu, c'est penser de la pensée. La philosophie moderne, dans son ultime moment, affirme que la pensée de la pensée, c'est le propre de la philosophie, c'est le propre de l'homme philosophe. L'homme n'est sage que quand il affirme qu'il est la pensée de la pensée. Et être rival de Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, connaissant l'être, connaissant la pensée de la pensée. Il y a comme quelque chose d'ultime. On touche quelque chose d'ultime. Et alors, est-ce que là, à ce moment-là, on n'est pas en présence, non pas d'un mystère? C'est la différence du mal et de l'ordre surnaturel. Dans l'ordre surnaturel, il y a un mystère qui nous dépasse. Et ce mystère qui nous dépasse peut se révéler à nous. Et alors à ce moment-là, on découvre l'au-delà de l'homme, dans la grâce, dans le Christ. Tandis que là, on découvre ce qui est moindre que l'homme, en apparence plus que l'homme, mais en réalité moindre que l'homme. Affirmer que je suis la pensée de la pensée, c'est infra-humain, puisque c'est l'erreur. C'est l'orgueil, puisque c'est imaginatif, c'est infra-humain. Ce qui est humain, c'est la vérité, c'est le vrai. Et donc, c'est à travers l'adoration que je découvre qu'il y a de plus humain. En affirmant la pensée de la pensée, que c'est moi, j'affirme quelque chose qui est inférieur à l'homme, puisque j'affirme une erreur. Je me mets à la place de Dieu, ce qui n'est pas la vérité. Alors vous comprenez, et c'est ça qui est curieux, ce qui est infra-humain est connaissable par l'homme, naturellement. Il n'y a pas de surnature dans l'ordre du mal. Dans l'ordre du mal, il y a toujours quelque chose que je peux atteindre. Je ne peux pas créer du surnature, mais je crée l'erreur. Je crée le monstre, le cyclope. Il n'y a pas deux yeux, mais il n'y a qu'un œil, comme Dieu. c'est la simplicité de Dieu. La pensée de la pensée, il n'y a qu'un œil. Tandis que quand je dis que l'objet est autre que moi, il y a les deux yeux, toujours. Symboliquement, vous comprenez, l'appréhension et le jugement, il y en a deux. Et tant qu'il y en a deux, il n'y en a pas qu'un. Et par le fait même, je suis soumis à quelque chose qui me dépasse. Dans l'ordre du mal, je peux toujours dominer. Je suis mon maître dans l'ordre du mal. Et je peux le connaître avec évidence. Je peux connaître avec évidence que l'orgueil suprême, c'est de se dire la pensée de la pensée. Ça, je peux le dire. Puisque c'est le fondement même de l'orgueil. L'orgueil est toujours du côté volontaire. L'orgueil n'est pas du côté de l'intelligence. Mais l'orgueil peut se servir de l'intelligence, détourner l'intelligence pour s'exalter. Mais l'exaltation est orgueilleuse. Et je peux découvrir à ce moment-là, parce que c'est une évidence, que le mal suprême, c'est l'inversion de l'intelligence sur moi-même, en m'exaltant à ce moment-là comme étant la pensée de la pensée. Et alors en affirmant ça, est-ce qu'au fond, je n'affirme pas qu'il y a un esprit malin? Alors l'esprit malin, c'est le démon. C'est un esprit créé, capable de nier et de rejeter celui qui est le père. C'est l'antipère. Et l'antipère, c'est justement le fils, la créature spirituelle qui nie qu'il y a quelqu'un avant lui et qui se considère comme étant la réalité suprême, pensée de la pensée. Vous voyez, c'est, je crois, cela qui me semble important à souligner pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que ça n'a pas existé depuis si longtemps, ça. Il y a deux choses qui ont existé depuis pas très longtemps. Cette affirmation orgueilleuse d'être la pensée de la pensée et cette autre affirmation d'être le maître du monde. L'homme peut, par sa puissance, détruire l'humanité, c'est-à-dire empêcher l'humanité de vivre, supprimer la procréation, empêcher l'humanité de survivre, de continuer de vivre, mettre une bombe à retardement, mais une bombe à retardement par rapport à l'équilibre du milieu vital. L'homme a besoin d'un milieu vital. En supprimant ce milieu vital ou en empêchant ce milieu vital d'être un milieu vital qui me permet de continuer de vivre, je mets la bombe à retardement par rapport au génocide de l'humanité. Je considère que l'humanité va nécessairement mourir. Oui, je crois que c'est l'application pratique de la pensée de la pensée qui trouve son incarnation. Nous vivons cela, c'est ça qui est très, très extraordinaire. Si on ne va pas jusque-là, on ne veut pas regarder la réalité telle qu'elle est. Au point de vue purement philosophique, c'est pas commode à vivre. Hein. C'est même très difficile à vivre, sans désespérer. Le point de vue chrétien, le point de vue de la foi, Abraham, à nous, maintenant, Abraham à Marie. Le point de vue de la foi montre en face de cet orgueil personnel, en face de ce pouvoir orgueilleux capable de détruire l'humanité, d'empêcher l'humanité de continuer. Nous savons tous que nous sommes mortels et que l'humanité normalement continuera après nous. C'est pas un désastre du reste, au contraire. Je suis très heureux que l'humanité continuera après nous. Mais pour celui qui est la pensée, c'est désastreux. Que l'humanité puisse continuer après Dieu. Qu'elle puisse continuer avec son autonomie propre. C'est désastreux. Et donc, il faut que l'humanité disparaisse avec moi. Puis, c'est celui qui dit à son ami, je ne peux pas mourir avant toi, tu serais complètement perdu de rester seul, parce que tu ne vis qu'en fonction de moi, c'est sûr. Donc, continuer tout seul, c'est impossible. Alors, il vaut mieux qu'on meure ensemble. Hein, petit raisonnement. Mourir ensemble, mais c'est très bien. Après moi, le déluge. Hein. Alors, il faut qu'il n'y ait plus rien. C'est un argument très fort, ça. Et alors, quand il s'agit non plus de l'amitié, où on se dit ça, mais que très vite, l'amitié se renverse en un orgueil capital, après moi, l'humanité ne peut plus durer. Et je le montre, et je le montrerai, parce qu'il ne le croit pas. Il ne croit pas en ma parole, qu'après moi, l'humanité ne peut pas durer, puisque je suis la pensée de la pensée. Donc il faut que l'humanité disparaisse en même temps que moi. Bon retardement. Quand je mourrai, il n'aurait qu'à appuyer sur un point de vue, l'humanité disparaîtra avec moi. Alors on sera heureux tous de mourir ensemble. Parce qu'il n'y aura personne qui gagnera. Et quand personne ne gagne, c'est merveilleux. Je reste premier dans le néant. Je reste premier. Vous voyez, le raisonnement du démon dans sa dialectique, c'est ça. Hein. C'est plus du tout dire il y a le prochain que j'aime et que je veux sauver. Non. Je ne veux le sauver que si je me sauve en premier. Je veux bien qu'il demeure si je demeure avant lui. Si je demeure avant lui, ça va. Et tant que je demeure avant lui, ça va. Mais dès que je commence à décliner et que lui ne décline pas, ça va pas. Or, c'est ce qui arrive tous les jours. Puisque quand on baptise un petit enfant et qu'on commence à être âgé, on se dit, je disparaîtrai bien avant lui. Tant mieux pour lui. Alors, on ne tolère pas ça. Alors, je crois que dans le mal, la pensée peut toucher l'absolu. L'absolu, c'est le démon dans l'ordre du mal. Mais c'est un mal personnel. Le démon, ou les suppôts du démon, sont-ils encore des personnes humaines ? Non. Cette chose extraordinaire que le démon, étant dans un homme, demande à Jésus, s'il est chassé de l'homme, de descendre dans un troupeau de porcs. Cet évangile nous fait comprendre, j'allais dire, la métapsychologie du démon. La métapsychologie du démon, ça ne viendrait pas à nous, je crois, normalement. Si je suis chassé de cette demeure, je désire vivre dans les cochons. Non, pas très agréable, hein, comme avoir comme tente, comme abri, un petit cochon. Descendre dans un petit cochon. Ce matin, au cours, on a récupéré des petits cochons. C'est affreux, c'est effrayant. C'est une métapsychologie, ça. Extraordinaire. Mais elle est symbolique, elle est réelle. Elle est symbolique et réelle. Elle nous explique comment, par le mal, on peut arriver à ça. Alors, ce n'est plus descendre dans le petit cochon, c'est arriver au néant. On préfère le néant à la vie d'un autre qui passera devant moi. Et c'est pour ça que cet évangile est si extraordinaire. C'est un évangile qu'on doit relire de temps en temps et puis l'interpréter. L'interpréter philosophiquement, métaphysiquement. Je peux l'interpréter métaphysiquement. Le mal, je peux l'interpréter métaphysiquement. Et même, je dois l'interpréter métaphysiquement. Parce que c'est quand même un drôle de goût de préférer plutôt que d'être soi-même. L'homme, c'est lui, il se retrouve avec lui-même. Le démon a tellement horreur de lui qu'il préfère habiter avec le cochon que d'habiter seul avec lui-même. Alors voyez, plutôt que d'être la pensée de la pensée, hein, voyez ce que ça aboutit, cette horreur d'être avec soi. Et on préfère... Il y a une illustration étonnante, là, qui est très forte, et qui est importante. Je ne peux pas faire la métaphysique de la personne humaine sans découvrir cette dégradation de la personne. Alors, regardons maintenant, pour ne pas finir sur la négation du petit cochon, tu vois. Ça, c'est la prédestination du démon. Il se termine derrière le troupeau de petits cochons qui, évidemment, n'a qu'un seul souci, c'est de se précipiter à l'eau. Parce que le cochon n'a pas d'alliance avec le démon. Et pour le petit cochon, le démon, il ne sait pas très bien, il ne le dit pas. Il y a quelque chose qui est anti-cochon. Forcément. Il est anti-vie. Et le cochon, à sa façon, n'est pas anti-vie. C'est un petit animal rose, plein d'espérance. Et le démon, il est anti-vie. Elle se précipite à la mer. Pour bien montrer que c'est impossible. Il y a une personne divine. Il y a, pour nous, dans notre vie chrétienne, une personnalité nouvelle. La personne divine et humaine parfaite, c'est Jésus. Mais en Jésus, il n'y a qu'une seule personne, le Verbe. Et vous voyez, c'est peut-être cela qui nous fait comprendre, justement. Pour le Christ, son intelligence humaine est-elle modifiée dans sa structure naturelle. Jésus est dans le Verbe incarné un respect complet de la nature humaine. La nature humaine dans le Christ s'est développée comme dans aucune autre personne. La nature humaine dans le Christ atteint un sommet pour l'intelligence. L'intelligence de Jésus est une intelligence parfaite, contemplative, métaphysique. Ne dites pas que Jésus n'est pas métaphysicien, il est sage. Donc l'intelligence du Christ atteint ce que l'intelligence humaine peut atteindre par elle-même. Elle atteint tout cela en acte et parfaitement, sans aucune déviation. C'est l'intelligence la plus parfaite qui soit. Et en même temps, c'est la nature humaine la plus pauvre qui existait. Cette nature humaine n'a pas de subsistance propre. Donc n'a pas de personnalité propre. Cette nature humaine du Christ subsiste dans le Verbe. Et donc, la nature humaine du Christ, dans son développement d'intelligence, atteint une contemplation surhumaine qui permet à l'intelligence humaine d'aller jusqu'au bout de son développement. L'intelligence humaine du Christ est immédiatement surnaturalisée par la grâce. La grâce du Christ, la plénitude de grâce du Christ, est un effet du mystère de l'union hypostatique. Et cette grâce vient transformer l'intelligence du Christ d'une manière telle que cette intelligence a la vision béatifique. Jésus n'a pas comme contemplation la contemplation de la nature humaine. Jésus ne se contemple pas lui-même comme homme et comme intelligence humaine. Il n'est pas la pensée de la pensée. Il est celui qui contemple le Verbe de Dieu, la très sainte Trinité, et qui vit de la pensée de la pensée. Mais sachant très bien que seul Dieu, seul le Verbe est la pensée de la pensée. Et que lui, dans sa nature humaine, parfaitement développé dans son intelligence humaine, est surnaturalisé par le Lumen Gloriae, surnaturalisé par une grâce qui est donnée gratuitement, qui n'est pas naturelle, et qui permet à son intelligence de vivre de la vision béatifique, en plénitude. Tout de suite, c'est en ce sens-là que l'intelligence humaine du Christ a atteint tout de suite son terme. Donc, elle n'avait pas besoin de la métaphysique, parce qu'elle atteint tout de suite son terme, la vision béatifique. Et ayant atteint tout de suite son terme, la vision béatifique, Jésus n'avait pas besoin d'une autre perfection. C'est la perfection suprême. Mais cette perfection suprême n'enlève rien à l'exercice parfait de l'intelligence humaine. À l'exercice parfait de l'intelligence humaine. Or, l'exercice parfait de l'intelligence humaine, c'est quoi ? C'est le réalisme métaphysique contemplant Dieu, Créateur et Père. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'ennoblit et permet à la nature d'exister parfaitement et pleinement elle-même. On est donc avec Jésus en présence de ce mystère d'une nature humaine parfaitement réalisée qui immédiatement atteint son terme qui n'est pas naturel et qui est surnaturel dans la pauvreté radicale métaphysique du primat de la personne divine. Et de la contemplation de Dieu tel qu'il est. Et dans ce mystère de la contemplation de Dieu tel qu'il est, l'intelligence humaine n'est pas du tout dégradée, n'est pas du tout sacrifiée. Elle est pleinement elle-même. Elle est dans le repos du Père. L'intelligence humaine du Christ est dans le repos du Père. Parce que le Père est Père de l'intelligence humaine du Christ. De l'intelligence métaphysique du Christ. C'est-à-dire de l'intelligence parfaitement intelligente. Hein. Quand vous dites métaphysique, c'est ça. Une intelligence qui a sa vie propre. L'intelligence. Une intelligence qui n'est pas retardée par la séduction du sensible. Nous nous sommes toujours un peu retardés par la séduction du sensible. Sans aller jusqu'à la séduction du sensible du petit porc. Le démon a été séduit par le sensible, c'est extrêmement curieux. Parce que le sensible, il peut le dominer. Alors il est séduit non pas par le sensible, il est séduit par la soif de dominer. Et la soif de dominer peut aller justement de vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et le démon vend son droit d'aînesse d'ange. D'intelligence angélique pour un plat de lentilles. Et le plat de lentilles, c'est d'aller habiter dans le petit cochon. C'est ça, c'est le point de vue du sensible et qui est trop fort. Et l'humanité est en train de faire ça. Hein. Elle vend son droit d'aînesse par rapport à tous les animaux. L'homme est roi de tous les animaux. Elle vend la recherche de la vérité pour un plat de lentilles, pour la jouissance. Alors, l'humanité sainte du Christ connaît dans la personne du Verbe, qui l'assume, connaît une dignité suprahumaine. Et donc connaît le dépassement et le développement parfait de son intelligence humaine, possédée par la vérité. Possédée par la vérité qui est justement la vision béatifique. L'entelekeia dans l'intelligence du Christ. L'entelekeia. l'ayance de la finalité, dans la vision béatifique. La vérité possède, la vérité première possède le Verbe, possède pleinement le développement de l'intelligence humaine de Jésus. Il est dans cette contemplation. Et la volonté du Christ, elle aussi, est dans une amitié, une alliance d'amour parfaite avec l'amour du Père. Et Jésus, dans son humanité sainte, dans son sacerdoce, sauve le monde et en fait ses amis, amis des hommes, en le sauvant par l'offrande de la croix. C'est la royauté de Jésus. Dans le salut où il s'offre comme agneau. Et en s'offrant comme agneau, il sauve. Le développement plénier de la prudence du Christ se réalise dans son sacerdoce et dans l'acte ultime de son sacerdoce qui est la croix. Et qui nous est exprimé symboliquement, mais réellement, dans l'Eucharistie, pour que nous puissions le contempler. Il y a un signe sensible, visible, qui nous permet de contempler cette amitié suprême de l'ami, une amitié absolument libre, où l'ami offre sa vie pour son ami. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Sacerdoce d'amour, sacerdoce de miséricorde, où Jésus s'offre lui-même, éternellement. Et cela se réalise dans une liturgie glorieuse. Sur la terre, liturgie eucharistique, dans le ciel, liturgie glorieuse. Et les sacrements participent à cette liturgie glorieuse et nous font vivre la liturgie temporelle de la croix. C'est tout le point de vue de l'art du Christ, qui est un art liturgique. Et qui fait partie du développement plénier de sa nature humaine. Il nous sauve. Et le corps du Christ, le corps sacré de Jésus, le corps divin de Jésus, se donne à nous en nourriture. Voyez la manière toute divine de se servir de son corps, de son cœur humain. C'est l'holocauste de la croix qui, symboliquement, se donne à nous à travers l'Eucharistie, un signe pratique. Qu'on comprenne ce mystère caché, ce mystère insondable qui est pour nous. Le corps devient victime d'amour. Et en étant victime d'amour, le corps humain est au cœur de la nouvelle liturgie éternelle. Où nous vivrons éternellement de ce don du corps du Christ, du cœur de Jésus. Jésus se donne en nourriture, à la différence de l'orgueil qui se donne en dominant. Il y a un parallélisme, voyez, antithétique, entre le démon qui supplie Dieu de descendre dans les petits cochons et Jésus qui, lui, supplie le Père comme conséquence de son acte d'obéissance à la croix, d'être donné comme nourriture, pain et vin à tous ses enfants. Pour les transformer en lui. Quand on domine, on se transforme en celui qui est dominé. Quand on s'offre en amour, on assume le pauvre pour lui donner ce qu'on a de plus cher. Et c'est ce que fait Jésus. Il se donne comme pain pour transformer notre cœur en son cœur, pour transformer notre vie en sa vie. Alors vous voyez, dans l'ordre surnaturel, qu'est-ce qui se passe ? Si je regarde la tête, si je regarde le principe, c'est la paternité de Jésus. Paternité sacerdotale, paternité victimale, toute d'amour. Ou c'est le Père qui, par le Fils, se donne à nous. Et c'est cette personnalité du Père et du Fils qui viennent nous transformer. En réalité, dans l'ordre surnaturel, le mystère de la personnalité chrétienne, c'est d'être assumé, transformé par le Verbe, par le Fils bien-aimé. Nous n'avons pas d'autre personnalité que celle de Jésus. Et lui n'a pas d'autre personnalité que celle du Verbe. Et c'est ce qui explique pourquoi la première des béatitudes, c'est la pauvreté. Quand nous regardons le mystère du Verbe incarné. Pauvreté divine, radicale, qui fait que toute notre autonomie est ordonnée à cette transformation profonde du Verbe qui assume la nature humaine, du Verbe qui nous assume avec Jésus, avec l'humanité sainte du Christ, pour que nous soyons un avec lui dans le corps mystique. Le corps mystique n'a pas d'autre personnalité que celle de la subsistance mystique du Christ, celle du Verbe. Vous voyez le mystère de la personne chrétienne. Et l'attitude du démon, c'est de ne pas accepter d'être assumé par Dieu et de vouloir garder son autonomie non serviam. Je ne servirai pas et je veux rester moi-même. Moi-même, dans ma propre contemplation démoniaque de ma nature angélique, me contempler moi-même. et faire que les hommes entrent dans le même mouvement, se contempler eux-mêmes. Il n'y a plus de contemplation, il n'y a plus qu'un rêve d'orgueil. Être soi-même au-dessus de tous. Et la correction de Dieu, c'est de comprendre que cela est un rêve démoniaque, d'orgueil, et qu'il n'y a rien de réel. Le réel, c'est le réel de la petite créature. Et ce réel ne peut être atteint que dans l'adoration. Je crois que quand nous regardons le mystère de Jésus, nous comprenons ce qu'est la personne chrétienne. Et dans la lumière de Jésus, nous comprenons Marie. C'est par sa maternité que Marie entre dans une participation la plus grande qui soit à l'égard de Jésus, à l'égard de sa grâce, à l'égard de sa personnalité divine de fils bien-aimé. Marie devient mère du Fils bien-aimé. Et sa maternité étant contemplative, est une maternité qui lui donne une personnalité toute particulière, une personnalité toute relative à Jésus, dans l'unité avec Jésus, et en même temps, une personnalité maternelle qui fait que tout en elle est donné à son fils bien-aimé. Et sa personnalité, à travers sa maternité divine, est toute une, plus que relative, toute une avec celle de Jésus. Là où on touche ce mystère si merveilleux de la maternité divine de Marie. Et notre personne chrétienne, c'est de devenir de plus en plus relatif à Jésus, pour que Jésus puisse vivre en nous tout son mystère. Jésus n'est pas transformé en nous, c'est nous qui sommes transformés en lui. C'est le propre de la vie chrétienne. Et c'est par l'exercice divin des dons du Saint-Esprit que dans la foi, dans l'obscurité de la foi, mais à travers l'amour, que nous vivons de cette présence. Et nous vivons de cette présence selon ces sept modalités des dons du Saint-Esprit. Alors il faudrait faire le parallélisme entre ces sept modalités des sept dons et les sept dimensions de la personne humaine. Je n'ai pas cherché, je n'ai pas pris ce raisonnement, il doit y avoir un parallélisme entre les deux dons, trouvons sept. Non, non, non. Cherchons bien. On a les dimensions de la personne humaine, sept. Et on a les sept dons du Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit montrent la manière dont Jésus vit en nous. L'Esprit-Saint vit en nous, le Paraclet. Le Père vit en nous, à travers ces sept modalités. Il y a quelque chose de très très grand. Pour que nous comprenions bien cette transformation radicale de tout nous-mêmes par la grâce du Christ. et par la maternité divine de Marie.